BFM Bourse, on refait la séance.
Et pour faire cette séance, pas un, mais deux invités, Cécile Aboulian, bonsoir. Vous êtes directrice Equity Capital Market chez Inextenso Finance et Julien Marion de notre site internet, donc BFM Bourse, hein, où on retrouve notamment de nombreux articles sur L'Oréal. D'ailleurs, dans un instant, vous nous parlerez tous les deux avec des avis divergents hein, de cette publication de L'Oréal qui a été bien arbitrée, quasiment 5% de hausse. Pluxee qui fait l'actualité, Sodexo également qui a publié ses résultats, Ipsos, et puis on reviendra également sur le cas de Essilor ou encore Schneider, mais juste avant quand même Julien Marion, une valeur qui a connu un inversement de tendance rapide en séance, c'est Edenred, hein, le titre a perdu quasiment 10% en séance avant finalement de réduire très légèrement ses pertes, moins 6,8 ce soir à la clôture, 43,71 €. Que se passe-t-il sur Edenred?
Oui, alors c'est tout chaud, hein. L'article on l'a écrit vraiment juste avant de venir. Ce qui se passe, c'est que il y a l'agence de presse ANSA italienne qui rapporte que le procureur de Rome, si je ne m'abuse, a mis en examen 4 anciens dirigeants de la filiale Edenred Italia. Vous vous rappelez, en fait, en Italie, Edenred fait l'objet d'une enquête hein, sur un appel d'offres potentiellement faussé qui date de 2019. Donc ça, en fait, le problème, pourquoi ça baisse? Alors que finalement, c'est juste une procédure qui suit son cours, finalement, quand on réfléchit bien. Bah, ce que me dit un intermédiaire financier, c'est que le problème, c'est que quand vous êtes sur Edenred, vous vous dites, voilà un dossier qui va peut-être nous empoisonner la vie pendant plusieurs mois en fait, et qui fait que la valeur est peut-être dead money, parce que même si la procédure suit son cours, eh ben ce dossier il va revenir, on va avoir des informations de presse qui vont revenir tous les mois, et on va rappeler cette épée de Damoclès quelque part, si vous voulez. Alors j'ai la direction d'Edenred juste avant de venir, eux ils disent pareil, hein, c'est une procédure qui suit son cours, il y a rien de nouveau. Et je rappelle que eux ils avaient dit qu'ils étaient confiants sur l'issue de ce dossier et qu'ils assurent qu'ils collaborent pleinement avec la justice.
Et ce titre donc qui finit en forte baisse, moins 6,8%, après, rappelons-le, une belle séance hier, hein, quasiment 5%, avec un chiffre d'affaires qui était au-dessus des attentes et qui avait rassuré les investisseurs. Alors une valeur aujourd'hui qui permet au CAC 40 d'être étale, bah, c'est L'Oréal, hein, c'est l'une des plus grosses pondérations, Julien, avec LVMH, avec Total ou encore avec Sanofi. Quasiment 5% de hausse hein, pour ce titre L'Oréal, il y avait pas mal d'inquiétudes, notamment par rapport au marché chinois. Et donc Cécile Aboulian, Julien Marion, bah, tous les deux, vous allez nous donner votre avis par rapport à ce dossier L'Oréal. On va commencer avec vous, Cécile Aboulian. En quoi, aujourd'hui, cette hausse de 5% est méritée pour L'Oréal?
Alors effectivement, si on parle que d'aujourd'hui, L'Oréal a battu les attentes en termes de chiffre d'affaires. Elle a un chiffre d'affaires un peu au-delà de 11 milliards d'euros sur le chiffre d'affaires T1, alors que le consensus attendait un petit peu moins. Ça fait près de 10% de croissance à périmètre et taux de change constant. Effectivement, L'Oréal était attendu sur la partie chinoise, mais la force du groupe, et c'est un peu de ça dont je vais parler tout à l'heure également, c'est d'être diversifié. Et donc effectivement, quand l'Asie du Nord a une croissance faible, les 65 autres pourcents qui sont exposés aux autres zones géographiques ont, elles, une croissance importante et vient tirer l'ensemble de la croissance du groupe. En termes de produits, maintenant, l'ensemble des produits ont été en hausse, sauf le segment du luxe, qui est également exposé à l'Asie du Nord, donc qui en a pâti.
On rappelle, hein, c'est Lancôme ou encore Saint-Laurent dans le secteur de la cosmétique. C'est vrai que parfois, Julien, on met L'Oréal comme une valeur de luxe, mais c'est à prendre avec des pincettes dans le sens où il y a toute une gamme de produits.
Oui, oui. Alors, la hausse d'aujourd'hui, je ne vais pas dire qu'elle n'est pas méritée. C'est faux. On ne va pas non plus être de mauvaise foi, si vous voulez. Non, et je ne vais pas trop parler d'application, mais quand même, un point, vous dites que c'est pas que du luxe, mais c'est vrai, vous savez, dans la division produits professionnels, donc ça c'est les produits qui vendent aux coiffeurs par exemple, il y a un impact, un one-off, un élément exceptionnel sur ces publications qui est en fait des nouveaux systèmes informatiques qui ont en fait un peu gonflé la croissance. Et L'Oréal vous dit que c'est la moitié de la croissance de cette division, donc les produits professionnels, qui sont dus à ça. Et cet effet, il va se renverser. Donc il faut déjà nuancer un petit peu ça, premièrement. Deuxièmement, maintenant, quand on regarde à plus long terme, c'est intéressant que vous évoquiez la diversification de L'Oréal, parce que c'est vrai que la force de L'Oréal, c'est d'arriver à aller sur les mains, à redéployer les ventes là où la croissance est. Quand il y a un pays qui est faible, on va là où les autres pays sont plus forts, en fait. Sauf que ça, on a vu que ça a eu des limites au quatrième trimestre dernier, donc la précédente publication, où ils n'ont pas réussi, cette fois-ci, à le faire suffisamment pour combler les attentes. Et L'Oréal a été sanctionné. Donc il y a une limite à cela. premièrement. Deuxièmement, ça c'est Deutsche Bank qui nous le dit, mais il y a quand même des effets. Si vous voulez, L'Oréal c'est quand même une valeur qui dépend beaucoup de la Chine pour sa croissance. Et Deutsche Bank dit qu'il y a des craintes structurelles sur la Chine, démographiques, mais aussi sur la demande à proprement parler. Ils avaient regardé en fait dans le détail les importations, ils voyaient en fait des problèmes. Et eux, ce qu'ils vous disent, c'est que la valorisation de L'Oréal actuelle, elle suppose, par le marché, que la croissance structurelle soit de 8% par an. Eux, ils n'y croient pas. Ils disent que c'est irréaliste. Donc vous voyez, il y a quand même des craintes. Et par ailleurs, la valorisation, c'est vrai qu'elle est élevée. Et ça, c'est aussi UBS qui le disait en début d'année, en janvier, ils avaient passé d'acheter à neutre, parce que aujourd'hui, la croissance, elle justifie peut-être plus autant qu'on soit à l'acheteur sur ce dossier. Ça ne veut pas dire que L'Oréal est une mauvaise entreprise, bien au contraire, c'est une entreprise de qualité, mais ça veut dire que quand on investit, on regarde le couple rendement-risque et qu'il y a peut-être mieux à chercher ailleurs, que ce soit chez les comparables immédiats, on peut penser à Beiersdorf qui a fait une même publication cette semaine, ou si vous voulez dans le luxe, il y a peut-être mieux à faire chez LVMH qui reste un conglomérat diversifié, ou même chez Hermès, c'est plus cher mais vous achetez la qualité.
C'est vrai que ça se paye un peu plus de 30 fois les profits attendus en 2025, Cécile Aboulian. Alors c'est vrai que L'Oréal, on dit c'est cher, mais ça a toujours été cher au final, ça a toujours été plus cher même que LVMH.
En fait, on paye quoi chez L'Oréal? On paye l'excellence opérationnelle, donc l'excellence de l'offre, l'excellence du marketing, de la communication. Ils ont un slogan que tout le monde connaît dans le monde, parce que tu le vois bien. Ouais. Ils ont des fondamentaux qui sont bons. 30 milliards de capitaux propres, une dette maîtrisée, de la croissance, une image de marque. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont une force d'innovation importante. Ils consacrent 3% de leur chiffre d'affaires à l'innovation. Ils mettent régulièrement sur le marché de nouvelles molécules. Récemment, c'était la mélacile, une molécule pour les problèmes de pigmentation de peau. Et ça, ça fait leur force également, en plus de leur force marketing, de l'offre. Et peut-être pour finir, hein, c'est un groupe donc qui génère du cash, qui paye des dividendes et qui, de ce point de vue-là, est intéressant également.
Ça offre 1,6% de rendement. C'est pas une grosse valeur de rendement, non. Mais il y a un léger rendement qui est là. Donc vous êtes plutôt positive aujourd'hui sur ce titre L'Oréal. 445 euros ce soir à la clôture.
Oui, absolument.
Et vous, Julien, à l'inverse, plutôt sur d'autres acteurs, vous pouvez nous les rappeler pour nos auditeurs, téléspectateurs?
Moi, je pense qu'on peut aller chercher Beiersdorf.
Qui est la maison mère de, parce que là, comme ça, ça
passe. Nivea, bien sûr.
Ah oui, donc c'est moins luxe.
Non, c'est moins luxe. On est plus dans la partie vraiment skincare. Sur un impôt sur les soins, en fait. Et je veux dire, L'Oréal, à un moment donné, il ne faut pas s'y tromper. C'est vrai qu'on l'assimile au luxe, mais les analystes, eux, ils le mettent dans ce qu'on appelle les staples, c'est-à-dire les biens de consommation, dans lesquels vous trouvez un univers plus large. Et d'ailleurs, même par rapport à cet univers, L'Oréal a une prime assez élevée. Donc, j'entends tout ce que vous dites sur la qualité de L'Oréal, elles sont réelles, on ne va pas le dénier. Le problème, c'est qu'on peut se demander s'il n'y a pas mieux à chercher ailleurs, avec les risques sur la croissance structurelle.
Et en tout cas, ce titre, L'Oréal, qui est de loin ce soir la star du CAC 40, plus 5%, 445 euros. Si on sort du CAC 40, il y avait également de belles publications, hein, notamment pour Sodexo et pour Pluxi. Alors, c'est deux titres qui sont liés, Cécile Aboulian, dans le sens où, en fait, Pluxi est rentré en bourse. Hein, c'est un spin-off de Sodexo qui est spécialisé sur la partie ticket restaurant, mais pas seulement. Hein, c'est très large, les cartes avantages.
Alors, le spin-off qui s'est déroulé en février me fait penser un peu au spin-off d'Accor et Danrette à l'époque, avec un paquebot, Sodexo. Et Sodexo s'est bien débrouillé aujourd'hui avec la publication de son chiffre d'affaires et de ses résultats semestriels, avec une précision de sa guidance sur le haut de fourchette en termes de chiffre d'affaires et un maintien de la guidance sur la marge opérationnelle. Et la partie ticket restaurant, donc Pluxi, qui, elle, donc affiche une croissance de plus de 24% en organique, pardon, à 600 millions d'euros. Qui a bénéficié, pardon, de cette croissance, de la hausse des volumes, avec de nouveaux clients, notamment sur les PME. Et puis, le business model de Pluxi est particulièrement intéressant parce qu'elle génère des produits financiers sur de la trésorerie qu'elle ne détient pas en propre. Et là, ça a été le double du semestre précédent, c'est-à-dire 75 millions d'euros. Et ça, c'est du chiffre d'affaires qui vient directement dans de la marge. Donc, à ce titre-là, Pluxi était un peu le hors-bord de Sodexo. Et effectivement, c'est c'est une publication qui est intéressante, mais on peut se rappeler quand même qu'en février, ils avaient donné des guidance, qu'on n'est pas très loin, et qu'on peut se dire que la communication est aussi très bien pilotée du côté de Pluxee, et on se demande même s'ils n'en ont pas encore un peu sous le pied sur les prochains mois.
C'est intéressant.
Julien, quel est votre regard par rapport à Pluxee? Alors, autant L'Oréal gagnait 5%, là, c'est le même tarif pour Pluxee, à 5% de hausse, 26,69 €, on est peu ou prou hein, sur les niveaux d'introduction.
Non, mais on imagine que ce qu'a voulu faire la famille Bellon, hein, qui détient historiquement Sodexo, c'est recréer finalement effectivement la success story d'Edenred avec Pluxee. Puisque Edenred, moi, plus analystes m'ont dit qu'ils ne pensent pas que Edenred aurait. Ça reste, parce qu'aujourd'hui, c'est en baisse Edenred, mais c'est une success story boursière, Edenred. Hein. Il faut quand même le rappeler. Et plusieurs analystes pensent que Edenred n'en serait pas forcément là s'ils étaient restés dans le giron d'accord. Donc, est-ce que Pluxee peut devenir le nouvel Edenred? Ça fait un moment que c'est bien accueilli. Hein. L'introduction, bon, ça a été bien accueilli. La publication est bien accueillie. Aujourd'hui, il y a quand même une décote par rapport à Edenred, mais qu'on peut quand même estimer qu'elle est justifiée parce que Edenred est beaucoup plus grand, a plus d'innovation. Et je veux dire, les expositions risques réglementaires sont à peu près les mêmes, hein, notamment en France pour les deux. Donc, c'est une bonne publication. Est-ce que le groupe n'est pas déjà suffisamment bien valorisé? Il y a un beau parcours hein, de cette action. C'est la question que je me permets de me poser.
Et Cécile Aboulian, sur le dossier Sodexo qui gagne 1,6%, quel regard? C'est vrai qu'il y avait pas mal d'inquiétudes par rapport à l'inflation, hein, parce que c'est vrai que parfois, il y avait des doutes sur la répercussion des hausses de prix des denrées alimentaires. Et puis aussi, par rapport aux États-Unis, dans le sens où c'est de loin le premier pays du groupe.
Alors, Sodexo a bénéficié de la hausse des volumes, mais aussi de la hausse des prix. Donc, ils ont pu répercuter l'inflation sur leurs prix. Et ils ont bénéficié également d'un taux de rétention historique de leurs clients de 95%. Ce qu'il faut voir peut-être en termes de valorisation sur Sodexo, c'est qu'elle se paye un petit peu en dessous de ses moyennes historiques et que la publication est positive, à l'image d'un grand groupe qui n'est pas sur des taux de croissance hein, de sociétés plus petites. Mais effectivement, c'est une société qui pourrait trouver d'autres catalyseurs, qui pourrait avoir des catalyseurs comme de la croissance externe et en continuant à avoir un peu de croissance organique comme ça, ça reste un groupe qui est très intéressant.
Et donc, belle surprise boursière pour Sodexo ce soir. À l'inverse, c'est beaucoup plus compliqué pour Ipsos. Alors, ça déçoit le marché hein, puisque la valeur perd 7,8% ce soir à la clôture à 61,40 €. Autant la semaine dernière, le marché était content de voir la publication de Publicis avec des clients qui ont besoin de data, qui ont besoin de mieux connaître les clients. Là, visiblement, chez Ipsos, qui fait aussi du marketing et qui aide les entreprises, c'est plus compliqué.
Absolument. Alors, peut-être en préambule, Ipsos confirme sa guidance 2024, mais quand on voit la performance aujourd'hui, c'est comme si les investisseurs n'achetaient pas cette nouvelle-là. Et effectivement, Ipsos, c'est un chiffre d'affaires en hausse de 4,5% sur le T1 à 560 millions d'euros. Et si on le regarde en séquentiel par rapport au T4, c'est presque moitié moins. Et c'est ce qui a déçu les marchés. Ils étaient plus sur une croissance de chiffre d'affaires au-delà de 5% que sur ce niveau-là. Et effectivement, c'est la partie Amérique du Nord qui a pâti, qui a pesé sur le chiffre d'affaires avec des contrats qui se sont arrêtés, plutôt significatifs, et peut-être une période d'immobilisme avant les élections sur la partie sondage.
Julien Marion, comment vous voyez cette publication? Alors c'est vrai que je parlais de Publicis, là on est sur un acteur qui est beaucoup plus petit, hein. Ça fait moins de 3 milliards en bourse et ça fait 2,5 milliards de chiffre d'affaires.
Non mais sincèrement, j'ai pas grand chose à ajouter, Cécile a fait une présentation vraiment très complète, si ce n'est que ce que on peut rajouter, là où c'est un peu décevant quand même, c'est si vous voulez, le fait qu'ils déçoivent les attentes alors que la base de comparaison était faible en fait, c'est ça. Il me semble qu'ils étaient en décroissance organique au premier trimestre 2023, donc la marge n'était pas si élevée en fait, c'est ça qui peut faire un peu mal aussi. Après, il y a une accélération qui doit revenir sur Ipsos, il y avait un parcours boursier relativement bon sur la seconde partie de 2023, donc on peut aussi relativiser. Il faudra voir, c'est toujours pareil, hein, il faut que les groupes délivrent trimestre après trimestre, là c'est pas le cas. Est-ce que ça met tout le dossier à la poubelle? Je ne pense pas.
Il nous reste un peu moins de 2 minutes, Cécile Aboulian, Julien Marion, pour aborder des valeurs. Quelle est la valeur que vous souhaitez aborder, Cécile Aboulian, qui a fait l'actualité et que vous avez envie de mettre en avant?
Peut-être qu'on peut parler d'Essilor.
Oui. Avec plaisir.
Essilor qui est l'une des plus fortes baisses hein, du CAC 40 après la publication de ses résultats, c'était hier soir.
Voilà, exactement. Alors, un peu le même scénario qu'Ipsos en termes de décélération en séquentiel par rapport au T4. Donc, c'est aussi ce qui a déçu. Et même exposition à une zone géographique Amérique du Nord qui a sous-performé avec des ventes de lunettes de soleil, notamment sur les magasins de sport et les chaînes spécialisées qui ont sous-performé et qui sont venues gréver l'ensemble de la croissance. Alors, Essilor confirme sa croissance à long terme, qui a un taux de croissance annuel moyen à horizon 2026 de 5% et une marge opérationnelle de 19-20%. Donc ça reste un beau profil générateur de cash, mais on est sur un niveau de valorisation qui est assez élevé. Donc les marchés sont assez exigeants et on attend des catalyseurs qui sont plutôt forts et ça souffre pas la déception et ça s'ouvre pas une croissance organique, c'est un peu en deçà des attentes.
Et vous êtes neutre sur cette valeur Essilor. On voit à l'antenne votre avis sur les différentes valeurs qui ont été évoquées. Cécile Aboulian, vous êtes donc positive sur L'Oréal, Pluxi, Ipsos et Sodexo et neutre sur le dossier Essilor. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés ce soir afin de refaire la séance. Cécile Aboulian, directrice Equity Capital Market chez Inextenso Finance, et Julien Marion, journaliste BFM Business pour notre site internet.